Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Et comme vous le savez, cette troisième saison est consacrée à la Nouvelle-France. Alors ce soir, il sera question d'un personnage, mais peut-être aussi d'une famille, puisque ce personnage a été entouré de ses fils dans ses grands exploits, dans ses grandes expéditions. Ce personnage, c'est Pierre Gauthier de la Vérendrye, qui est né aux Trois-Rivières en 1685 et qui est mort à Montréal en 1749. C'est un véritable natif de la Nouvelle-France. Son père était un Français, un militaire, qui était arrivé avec le régiment Carignan-Salière en 1665. Et sa mère, Marie Boucher, était la fille de Pierre Boucher, personnage déjà bien connu, qui avait été gouverneur des Trois-Rivières et à qui on avait cédé une seigneurie, Boucherville, hein, à l'origine de Boucherville. Donc, un véritable natif de la Nouvelle-France et quelqu'un d'une assez bonne famille, même s'il perd il va perdre son père assez jeune, à 4 ans. Et donc, souvent, ces jeunes de bonne famille allaient tout naturellement vers l'armée. Il va devenir cadet en 1696. Il va participer à des raids en Nouvelle-Angleterre, dont certains sont peu glorieux, on en reparlera. Et il va s'expatrier en 1707 en Europe. Il va aller combattre dans les armées du roi. Il va participer à la guerre de succession d'Espagne. Il va participer à une bataille célèbre en 1709, à laquelle d'ailleurs va participer l'ancêtre de Churchill en personne, John Churchill, le duc de Marlborough. Alors, une grande bataille, il va être blessé grièvement, il va être emprisonné. Et après quelques années, il va revenir ici. Il va revenir ici, et là, pendant quelques années, il ne saura pas trop se fixer. Il va aller vers l'agriculture, hériter d'une terre. Et en 1727, son destin est tracé. Il se décide, après avoir hésité, il va partir à la découverte de cette fameuse mer de l'Ouest. Une mer de l'Ouest qui fait jaser, qui fait rêver les explorateurs depuis déjà une centaine d'années. Hein, cette mer de l'Ouest qui permet de trouver cette fameuse route vers l'Orient que cherchait déjà Jacques Cartier en 1534-35, qu'ont cherché tous les explorateurs. Donc lui, il a cette ambition de la trouver, cette mer de l'Ouest. Et pour y arriver, il va se faire aider par ses quatre fils aînés, ses quatre plus vieux, qui vont participer avec lui à de nombreuses expéditions. Puisqu'à partir de 1727, il fait de nombreuses expéditions, il part plusieurs années, il revient, il repart, il fonde des forts un peu partout, dans des endroits de plus en plus reculés. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, en 1730, à l'ouest du lac supérieur, on ignore à peu près tout. On n'a aucune carte. C'est un peu le blackout. On a une vague idée qu'il existe un lac, le lac Winnipeg, qui pourrait mener à la mer de l'Ouest, mais on n'en sait à peu près rien. Donc, quand on voit la carte des forts qui ont été fondés par lui, on est extrêmement impressionné. Mais pour y arriver, il a dû faire face à des défis immenses. Premier défi, le financement. On en reparlera. Ça a été un combat de tous les instants. Deuxième défi, faire tisser des liens avec les Amérindiens. C'était un monde, un univers complètement nouveau, étranger aux Français et aux Canadiens de la vallée du Saint-Laurent que ce Midwest américain et que ces prairies canadiennes d'aujourd'hui. Et enfin, dernier défi, d'avoir toujours la confiance des autorités. Donc, c'est de tout ça qu'on va parler. C'est de ces défis et de ces expéditions qui vont l'emmener, qui vont mener son fils jusqu'aux Rocheuses et non pas lui. Et pour nous parler de ces expéditions, de ce personnage, de cette famille, eh bien, évidemment, on a invité quelqu'un que vous connaissez bien, que vous appréciez sûrement beaucoup. C'est probablement l'anthropologue le plus connu du Québec. C'est un animateur de radio qui a animé une série d'émissions sur la première chaîne de Radio-Canada. On le connaît aussi pour ses livres, ses essais sur le monde contemporain, mais aussi sur les Amérindiens. Il a consacré des travaux sur les Amérindiens, dont l'un de ses derniers, sur le peuple Innu. Hein, il avait fait son mémoire de maîtrise sur ce peuple. Il en a fait un livre qui circule très bien. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'anthropologue Serge Bouchard. Bienvenue. Merci. Vous voulez prendre place? Oui. Alors, Serge Bouchard, merci d'avoir accepté notre invitation, figure marquante de notre histoire.
Je vais vous retourner le merci. C'est un honneur d'être ici, puis j'en reviens juste pas.
Nous, on n'est pas très, très surpris, on doit vous le dire. C'est pas pour être flagorneur, mais on n'est pas très surpris de voir autant de gens. Peut-être que c'est un peu grâce à vous si ces gens-là sont ici, puisque vous avez animé pendant plusieurs années à la radio des émissions, ces remarquables oubliés. Et vous en avez d'ailleurs tiré notamment, mais entre autres, un livre, « Ils ont couru l'Amérique ». Et dans « Ils ont couru l'Amérique », on parle du personnage qui est à l'honneur ce soir.
De la famille La Vérendrye.
Exactement.
C'est vrai, les remarquables oubliés, ça a été, avant qu'on aborde le sujet, ça a été une de mes plus belles aventures de radio de ma carrière. J'ai été heureux. 74 personnages. Et ça, c'est 12 ou 13 seulement coureurs de bois. Il paraît que l'autre livre est plus intéressant aussi.
Sur les femmes?
Sur les femmes. Elles ont fait l'Amérique. Ça, c'est 13, 14 femmes. On ne s'attend pas à rencontrer des femmes comme ça dans l'histoire, mais évidemment, c'est un des péchés de l'histoire et des historiens d'avoir oublié que les femmes représentaient la moitié du monde.
En effet, un grave oubli. Alors, vous savez, le reproche, moi, quand j'ai commencé à étudier à l'université en histoire, on disait, les grands personnages, là, notre rôle à nous, les chercheurs, c'est de déboulonner des mythes, de déconstruire, de les faire débarquer de leur piédestal. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous dire, mais vous êtes en train de refaire ce que faisaient les curés d'autrefois, des hagiographies.
Oui.
Vous mythifiez ces grands... Qu'est-ce que vous répondez à ces...
J'ai une admiration naïve pour ces personnages que j'ai traités, mais ils ont été maltraités, c'est donc qu'on les reprend. En fait, j'ai fait le chemin inverse. Ça, moi, je n'ai jamais été tenté de faire Frontenac, par exemple, ou de faire... Même Champlain, dont on s'est bien occupé, dont des grands savants et des livres, et tout ça. Pas pour le déboulonner, pas pour le reboulonner. Ça a été fait, ça a été fait. Mais quand même, on a des choses à dire sur Champlain. On aurait des choses à dire sur Frontenac. Mais je suis très humain. Je suis pas un historien. Hein. C'est un humain, moi. Puis il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas.
Vous parlez des personnages ou des historiens?
Non, des personnages. Non, on s'entend bien. Non, des personnages. Par exemple, vous aviez Biz ici sur Iberville. Biz, il aime beaucoup Cadillac parce que Cadillac fait des trois, puis il y a des choses comme ça. Moi, j'ai toujours haï Cadillac, pour moi.
C'est vrai qu'il est assez louche comme personnage.
Toutes sortes de choses. Mais par contre, c'est un personnage fascinant, intéressant. Ouais. On pourrait en faire une longue approche. Il s'appelait François Lomet, c'était un magouilleux, c'était un mafieux, en fait, il y avait bien des défauts, mais ça le rend sympathique aussi.
Alors que, dans le cas de La Vérendrye, quand est-ce que vous l'avez découvert? Comment vous êtes tombé sur ce personnage et sur cette famille?
C'est l'ensemble des recherches sur l'Ouest américain, sur la pénétration francophone dans l'Amérique. Ben, vous savez que mes remarquables oubliés, sans faire exprès, je me suis rendu compte que l'Amérique... je me suis rendu compte, c'est une longue découverte sur 40 ans, là, que finalement, l'Amérique avait été explorée par les francophones. C'est assez curieux, quand même. Les Américains s'en rappellent certainement pas. Les Canadiens anglais non plus, curieusement. Mais les pires ennemis, ça a été nous-mêmes, qui avons glorifié beaucoup, travaillé beaucoup, creusé beaucoup sur l'Acadie, sur la vallée du Saint-Laurent, à juste titre et à bon droit. Mais l'Ouest américain, le fameux Empire des Grands Lacs, les Grands Lacs, le Wisconsin, le Minnesota, les Dakotas, le Manitoba et jusqu'au Wyoming. Puis là, dans les remarquables oubliés, d'ailleurs, je n'avais jamais fini, je me suis bousculé jusqu'en Oregon. Où la fondation de l'Oregon, c'est des Canadiens français qui l'ont fait. C'est des découvertes, on va de découverte en découverte. Bon, bien sûr, La Vérendrye, on a voulu faire le récit à la radio. Alors, ça a commencé par quelque chose de très, très... Tu sais, les Laverandries, le mot est connu. Il y a un boulevard à Verdun.
C'est vrai.
Il y a un parc. Il y a un parc qu'on traverse. Tu dis, hey, j'ai traversé le parc Laverandries, il y a assez plate, il n'y a rien, on a dormi, tout ça. C'est une vaste étendue forestière. C'est une vaste étendue forestière. Mais Laverandries, c'est qui? Les gens vont vous dire, je pense que c'est un explorateur. Je pense que c'est Montagne Rocheuse. Montagne Rocheuse, explorateur, mais sans plus.
C'est vrai.
On connaît plus les tenants et aboutissants de Donalda et de...
Oui, vous en avez un peu contre ce genre de retour sur...
Moi, j'aurais aimé voir au cinéma une grande saga, la saga des Laverandries. En fait, c'est l'histoire de la famille Gautier.
Oui.
Tous les Gautier du Québec peuvent s'enorgueillir de ce fait. C'est la famille Gautier. Il s'appelle Gautier.
Oui.
René Gautier, vous l'avez mentionné, René Gautier, il vient de la région d'Angers, en France. Et assez curieusement, à Angers, à l'époque de René Gautier, on est à l'époque de... Il vient au monde à la mort de Champlain, le vieux Gautier, 1535. Alors, autour d'Angers, il y a plein de fermes, et les noms des fermes, s'appellent Varennes, Dutremblay, Deboumois et Laverandries. Alors, c'est en prenant les fermes autour d'Angers qu'ils vont amener ces noms qui vont devenir familiers au Québec et au Canada français, parce qu'ils vont changer leur nom. Ils changent leur nom, disons-le tout de suite. René Gautier, à sa mort, va s'appeler René Gautier de Laverandries, une des fermes d'Angers. C'est qu'ils cherchaient la particule. C'est décolonisé. Ils ont la France. Ils voient la France gros comme une grande lumière, un soleil. Ils sont méprisés. On se fait traiter de créoles. C'est la première génération des Canadiens. Alors, eux autres, ils voulaient la particule, l'honneur, la gloire de la France. La particule. Il y en a plein de monde comme ça qui cherchait à s'appeler de quelque chose. Mais en réalité, c'est la famille Gautier, René Gautier. Il est soldat, et puis il va mourir pauvre comme Job. Et là, c'est curieux. L'historien peut réfléchir, ou l'humain d'aujourd'hui peut réfléchir. Ces gens-là avaient des terres. Et ils ont des seigneuries. Lui, il a la seigneurie de Varennes. C'est-à-dire, il y a une seigneurie, il décide de l'appeler Varennes. Il y a une autre seigneurie au nord de Trois-Rivières, la Gabelle, pour faire de la traite avec les Indiens. Il y a une maison à Montréal, il y a des terres, mais il est pauvre comme Job. Il est pauvre, il n'y a pas d'argent. La traite des fourrures ne lui rapporte pas d'argent, il ne réussit pas à avoir de censitaire, il ne réussit pas à être... Il va mourir jeune, bourré de dettes. Et puis, il avait marié, quand même, il faut le mentionner, Marie Boucher, qui va marier, elle avait 12 ans. Donc, il l'a pris jeune. Lui, il meurt jeune, 50-quelques années. Elle va rester avec un héritage de dettes terrible et des enfants. Donc, les enfants, il y a Pierre. Il y en a d'autres, là, mais il y a Pierre. Celui, notre personnage principal, Pierre de la Laverandries, qui en réalité, il s'appelle Pierre Gautier. Lui, il est intéressant. On a commencé à raconter son histoire. Il est fascinant. Il est ici, il ne veut pas devenir... Il va aller au séminaire. Il a une éducation.
Rudimentaire.
Il va au séminaire de Québec, mais il ne finit pas ses études. Donc, on peut présumer qu'il sait écrire, qu'il sait lire, mais ce n'est pas poussé, là.
Non.
Il va essayer d'être cadet de la marine, parce qu'effectivement, il est fasciné par les honneurs, par les uniformes, il fait la guerre. Alors, quand il va à Deerfield, qui participe, c'est pas glorieux.
Non. Vous avez peut-être dit. Juste en dire un petit mot sur ces raids rapidement.
C'était la grande époque, 1680-1710, c'est la grande époque du marche de la. On faisait des kidnappings.
C'est ça.
C'était du développement économique par le kidnapping. Les Français de la vallée du Saint-Laurent, de Québec et de Montréal, utilisaient les Abénakis, qui étaient des grands spécialistes, les Abénakis qui se trouvent là, justement, dans les territoires vers l'Est, entre la Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, on y va pour les vacances, là.
Wells,
puis il y a des places comme ça. Ogunquit.
Ogunquit.
Mais dans ce temps-là, il n'y allait pas pour les vacances. Il traversait la forêt des Abénakis. Il allait saisir des Anglais, des hommes, des femmes et des enfants, des gens de métier, etc. Il les ramenait chez les Abénakis, puis là, il négociait avec les Français, qui les achetaient. mais c'est qu'il les prenait puis qu'il demandait rançon. C'est une façon de développer le pays.
Oui. Avec des beaux récits, il y a des belles histoires, notamment celle de Esther Wheelwright que vous racontez dans le livre. C'est une femme incroyable qui a été justement kidnappée enfant, mais qui est devenue supérieure des Ursulines, qui n'a pas voulu retourner en Nouvelle-Angleterre. L'ancêtre des Faneuf a été était Matthews Faneuf.
Elle n'était pas la seule, oui. Esther Wheelwright. Mais ça, c'est une grande histoire.
C'est
Esther
ça, oui, oui.
Elle va devenir, oui, catholique.
C'est ça.
Sœur.
Oui, oui, oui.
Elle a été à Benakis aussi. Elle adorait être chez les Abénakis, elle parlait Abénakis. Donc, vous voyez, une petite protestante anglophone, habillée en gris.
Une enfant aussi.
Une enfant.
C'est ça.
Qui devient une Abénakis, ouais, habillée avec des plumes, puis dans la forêt, avec la spiritualité algonquienne, qui devient française, canadienne, française, à Québec.
C'est
qui devient Ursuline, ouais, et qui devient... et qui, à la conquête, va négocier, ouais, avec, ouais, les Anglais,
ah, ouais,
puisqu'elle est anglaise elle-même. Alors,
oui, non, c'est ça, ça nous éloigne de la virandrie. Mais il a participé donc à un de ses raids, à Deerfield.
C'est qu'on faisait ça.
Oui, mais ça tournait aussi en massacre. Hein,
mais Deerfield, ça a été le plus scandaleux. Parce, ouais, que là, on en a ramassé du monde, on a, ouais, tué du monde, beaucoup, ouais, de monde. Alors, il y avait des Français, il y avait des soldats de la marine, ouais, il y avait des Indiens alliés aux Français qui faisaient ça. Et beaucoup... ce sera une autre conversation, mais tout ça était centralisé à Kahnawake, Kahnawake, mm-hmm, Sault Saint-Louis, mm-hmm, chez les Iroquois du Sault, qui étaient les plus grands courtiers en esclaves autour de Montréal. C'est très intéressant.
Là, Pierre Laviandrie décide d'aller en France en 1707.
Pour être un plus vrai soldat, oui, être dans de plus vrais combats. C'est, mm-hmm, quand même incroyable. Mm-hmm. Alors, il s'en va en France, on va se battre, puis là, il veut la gloire. Il se fait blesser, parce que la guerre, c'est réel, puis il se fait poignarder, il y a des balles, tout ça, puis il va guérir. Puis quand il guérit, il pense qu'il va avoir des titres. Effectivement, il est le lieutenant. Mais lieutenant, le titre ne vient pas avec l'argent. Donc, il est désargenté, jeune, non marié, en France. Il décide de revenir au Canada. Il revient au Canada dépité. Pas content. Et toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il va réclamer dans des lettres, il va réclamer une pension d'ancien combattant, mmh, à la France. Mmh. C'est une obsession qu'il avait. Quand il revient, il va marier la fille qui... Il avait un œil sur une fille à Trois-Rivières. C'est une belle famille, ça. Ça, c'est intéressant. C'est un autre, ouais, lien intéressant.
Les Dandenault.
Les fameux Dandenault.
Ouais.
Elle s'appelle Marianne Dandenault, du Sablé. Et vous savez que le fondateur, là, je m'en vais loin, là, le fondateur de Chicago, il s'appelle Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. C'est un mulâtre, fille d'un Canadien français de Saint-Louis au Missouri, qui s'appelait Dandenault du Sablé, originaire de Trois-Rivières. Alors, tu viens fou quand tu fais de l'histoire. ça devient intéressant. Tu t'en vas à Chicago, tu as quelque, ouais, chose à dire.
Ouais.
À Chicago.
En effet.
Et donc, il a marié oui, cette femme. Et là, il va avoir des enfants. Il va devenir cultivateur. Il a des terres. Il s'installe à l'île aux Vaches.
Oui.
Et pendant longtemps, 15 ans, il va imaginer que c'est un cultivateur. Mais il n'est pas bon. Parce que pour être cultivateur, il faut aimer la terre. Lui, il n'aime pas la terre. Il a sa famille, puis il est pauvre, puis il a été pauvre, puis il sait que son père était pauvre. Fait qu'il est écœuré de la pauvreté. Alors, il va quitter parce que son frère, Jean-René, fait la traite des fourrures au lac supérieur. Il a le monopole. Alors là, il laisse sa femme, il laisse ses enfants. Il s'en va à l'aventure il y a 40 ans. Il n'est pas jeune, non? 40 ans, il s'en va au lac supérieur. Il ne connaît rien, mais là, il va connaître quelque chose. Il va faire ses classes au lac Népigon, sur l'île Métis-Picoten et à Kaministiquia. Pour ceux qui connaissent... Et là, c'est des cours de géographie, hein? C'est l'Amérique. Là, il faut, oui, connaître, oui, les grands lacs. Kaministiquia, c'est Thunder Bay aujourd'hui. Mais Kaministiquia, c'est le centre névralgique des explorations, c'est le centre névralgique de la traite des fourrures dans la partie nord-ouest. Puis aller au fond du lac supérieur à cette époque-là, c'était toute une aventure. Le lac supérieur, c'est un océan, c'est traite, il y a l'allant canot. C'est épouvantable d'aller là, c'est loin. T'es rendu à Thunder Bay, Kaministiquia. Et là, lui, son frère va quitter et il va prendre les rênes des traites des fourrures dans les grands lacs. Vous l'avez dit tantôt, ils sont en face de l'inconnu. Quand ils regardent le soleil se coucher, c'est une terra incognita. Ils ne savent pas ce qu'il y a devant. Ils ne savent pas comment y aller non plus. Ils essaient par caménistique, oui, mais ce n'est pas possible. Les portages sont trop difficiles. Les gars sont écœurés. Ce n'est pas facile quand tu dis, tu as 10 hommes, tu dis, on s'en va vers l'ouest. Il faut que les hommes t'obéissent, là. Mm. Si tu dis à 10 canotiers, on prend ce portage-là, puis là, le chef des canotiers vient te voir, puis dit, on n'est pas syndiqué, mais je te le dis, mais on ne le prend pas. On y va pas. C'est ce qui va arriver à la Vérandrie.
Oui, oui.
C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Alors là, il y a l'idée de devenir riche dans la traite des fourrures. Mais au même moment, il va avoir une commission royale de France. La découverte de la mer de l'Ouest. Donc, c'est une déclaration. Vous êtes l'explorateur officiel de la France pour la découverte de la mer de l'Ouest. Ça vient avec une belle déclaration, mais pas une scène. Autrement dit, le ministre français Maurepas va lui dire... tu découvres la mer de l'Ouest, mais je ne te donne pas un sou. Il faut que tu t'auto-finances.
C'est ça, par la fourrure.
Ce qui est la traîtrise répétée de la France là, à l'égard de l'Amérique. Je veux l'Amérique, mais je ne veux pas payer pour. C'est épouvantable de dire un truc comme ça. 40 ans plus tard, Meriwether Lewis et Clark vont traverser l'Amérique à la solde du gouvernement américain. Ils sont tous payés. Mais la Vérandrie n'avait pas une scène. Alors, on lui dit, tu vas découvrir la mer de l'Ouest. Un petit détail. Tu es au fond de Takaministoukouya. Et à cette époque, il y avait un conflit entre les tenants du Missouri et les tenants de la rivière Saskatchewan.
Il y avait deux possibilités.
Il y avait deux voies de pénétration.
C'était une discussion entre spécialistes. Puis on disait, il y a peut-être deux voies pour y arriver.
Pour parler comme à l'époque,
ouais.
Ce serait comme tu t'en vas de la Chine puis tu t'en vas à Michilimackinac. Michilimackinac, c'est sur Sainte-Marie aujourd'hui, en gros. Rendu à Michilimackinac, tu tenais conseil. Ou je continue vers l'ouest et le nord-ouest, par le lac supérieur, ou je pique vers le sud, vers le Wisconsin, l'Illinois, vers le Wisconsin, vers le Mississippi, le Missouri. Le Missouri s'en va vers l'ouest. Mais à cette époque, on ne sait rien.
Non,
on ne sait pas. Vas-tu prendre le Missouri ou vas-tu prendre l'inconnu Saskatchewan?
Et juste pour faire une petite parenthèse, au fond, au 17e siècle, au même endroit, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de prendre le Mississippi et aller vers le sud. Mais à ce moment-là, on ne sait pas que ça va vers le sud. On pense que peut-être le Mississippi...
Bien, le Mississippi va aller vers le sud, mais c'est le Missouri la clé.
Oui, c'est ça.
Le Missouri, qui, lui, prend sa fourche à Saint-Louis. Mais le père Charlevoix, bien connu dans l'histoire, qui était en fait un espion français... qui faisait le trajet de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Québec pour dire aux Français qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Lui, il va dire, il faut prendre la route du Missouri. Mais le père inconnu, un missionnaire, le père de Gonnard, a rencontré la Vérandrie, à Michilimackinac, puis il dit, il faut prendre la route du Nord-Ouest. C'est la route du Nord-Ouest. La Missouri, ça ne donnera rien, parce qu'il y a des Sioux, il y a un paquet de Sioux, puis les Sioux ne sont pas commodes. Puis il y avait ce qu'on appelait une compagnie des Sioux à Montréal, qui opérait dans cette région, des traiteurs de fourrure, il appelle ça la compagnie française des Sioux. Il dit, on ne pourra pas y arriver par là. Alors, c'est là que la Vérandrie décide de pénétrer par le lac supérieur. Alors, là, il fait venir ses fils. Trois. Il y en a quatre, il en fait venir trois. Il y en a un qui est trop jeune.
C'est ça.
Il en fait venir trois. Trois durs. Jean-Baptiste est un solide. D'abord, il parle algonquin. Ça, c'est un avantage extraordinaire. C'est un gars de bois, c'est un coureur de bois, c'est un modèle de coureur de bois. Pierre aussi, puis François aussi. Donc, c'est trois solides. Et son neveu, Christophe de la Jameraie, qui est le frère de Marguerite de la Jameraie, sieur d'Youville. Alors, lui, Christophe, c'est l'ami de Jean-Baptiste. Et la Vérandrie va établir un modèle où lui, c'est le père, il a 40 quelques années, il se considère arthritique et... fatigué. Et il envoie ses fils. En fait, il envoie toujours ses fils à l'avant. Il va rester à Kaministikouya, il va envoyer ses fils. Ah oui, il y a un autre détail important. J'ai dans mes notes, là, je n'ai pas encore pris mes notes, là, mais ils sont là. Mais je me souviens de mémoire. Il va consulter longuement avec les Ojibwés. Ses consultants sont des Ojibwés. L'histoire les connaît. C'est Oshaga, Petit Crapaud, Petit Jour, des gens comme ça. Puis qu'avec du charbon, dessine des cartes. Il dessine des cartes. Il y a une pile de cartes. Et les Ojibwés lui disent, c'est les sauteurs ojibwé. Ils lui disent, il faut que tu ailles au grand portage. Tu ne passes pas par Camille Sequoia, va au grand portage. Il s'en va au grand portage et ses fils vont traverser. Et là, ça va être la première expédition. Ils vont aller au lac à la pluie.
Oui, c'est ça. Parce que si vous regardez une carte, là, il y a le lac supérieur. Et après, il y a quelques lacs qui mènent au lac Winnipeg. Et c'est des distances incroyables.
Bien, n'importe qui le fait même aujourd'hui en automobile, l'Ontario, c'est interminable. C'est une province qui est couchée. Hein. Elle est couchée, elle est faite sur le long. C'est-à-dire que tu en as fait un grand bout, puis tu penses que tu l'as fait. C'est là que ça commence. De Thunder Bay à Winnipeg, tous les camionneurs savent ça, c'est long, longtemps. Puis d'ailleurs, la route transcanadienne aujourd'hui suit exactement la route de la Vérendrye. C'est-à-dire que tu pars au Grand Portage, tu t'en vas jusqu'au lac à la pluie, qui est un immense lac, hein?
Oui.
Lac à la pluie. Ils vont faire un fort, le premier fort. Mais ils appellent ça des forts. Moi, ça me fait rire. C'est des postes de traite.
C'est ça.
C'est des postes de traite en bois rond. Ils appellent ça des forts. Bien sûr, c'est fort. Ils vont l'appeler le Fort Saint-Pierre. Là, ils vont aller au lac des Bois, péniblement. Et au lac des Bois, ils vont faire le Fort Saint-Charles. Et du lac des Bois, tu peux déboucher à la rivière Rouge. Et là, ils vont faire un troisième poste qu'ils vont appeler le fort obséquieusement, le fort Maurepas.
Oui, du nom du ministre.
Moi, je n'aurais pas appelé ça Maurepas.
Quand on sait,
Non, non, il a arrêté de se rhabiller parce qu'il y avait une énorme tension entre la Vérendrye et Maurepas. Puis la Vérendrye ne va pas gagner. Mais Maurepas, lui, il voulait la mer de l'Ouest. Il avait dit, tu feras des fourrures. Mais l'autre faisait des fourrures. Puis l'autre lui reprochait de faire des fourrures. Mais enfin, c'était un imbroglio total. C'était pas juste pour la Vérendrye. Mais ça va être dur. La traversée de l'Ontario va être très, très dure. D'abord, il va perdre Christophe Lajamarais, va mourir d'épuisement.
Alors, c'est ça. Attardons-nous à l'année 1736, puisque...
Oui, là, c'est dur.
Il fait une expédition, vous dites au début, il est uniquement au lac supérieur avec son frère. Ensuite, il est nommé un peu responsable pour découvrir cette mer de l'Ouest. Et là, il s'organise une vraie expédition. Et là, arrive cette année 1736, c'est une nouvelle expédition et ça se passe très mal. Mais pour comprendre pourquoi ça se passe mal, je pense qu'il faut faire un petit pas de côté. Puis il faut que vous nous expliquiez, on est avec quelqu'un tout désigné pour ça, parce que nous, là, on est... Nous qui s'intéressons un peu à la Nouvelle-France, on est assez familiers avec les Hurons, les Algonquins, les Iroquois et toutes les composantes de ces civilisations. Mais là, on arrive dans l'Ouest. Il y en a d'autres. Il y a des rivalités. C'est extrêmement complexe. Et la Vérendrye et ses équipes doivent composer avec ces gens-là. Pour eux aussi, c'est relativement nouveau.
C'est l'inconnu, puis c'est la diversité totale, et c'est un panier de crabes aussi.
Ben justement, vous utilisez le terme panier de crabes.
Mais c'est très dynamique. Il y a des Sioux, il y a des cris, il y a des cris des bois, puis il y a des cris de la baie du son, de la baie de James, que la Vérendrye appelle les Moosonis. Alors, il y a les Moosonis, il y a des cris des bois, il y a des Assiniboines, il y a des sauteux, et tout ça ensemble, ça s'aime pas. Et là, quand tu traverses ça, tu reviens dans l'histoire comme Champlain, avec qui tu parles, puis si tu es ami avec lui, tu vas être ennemi avec lui, puis c'est ça. Puis là, il rentre dans cet imbroglio-là. Et la Vérendrye essaie de décoder ça, mais malheureusement, Pierre, le personnage central, n'est pas très bon là-dedans, parce qu'il ne parle pas les langues amérindiennes, puis il ne s'intéresse pas aux Amérindiens. Ses fils, oui, mais pas lui. Lui, il s'intéresse aux fourrures et à l'argent. Et quand on parle des expéditions, où on a le choix, où c'est un explorateur, où c'est un commerçant de fourrures, ça a été beaucoup plus un commerçant, parce qu'il faut qu'il se finance. Alors, il est toujours en train de parler aux Indiens, de parler à ses fils, puis il y a le souci de l'approvisionnement. C'est comme un général qui est rendu aux confins du... Quand tu es rendu au lac des Bois, puis tu attends ta marchandise de la Chine...
T'es un peu anxieux.
Puis que t'as dit à l'Indien qu'il allait l'avoir, son truc, c'est comme amener un catalogue Eaton, puis pas livrer la marchandise. À un moment donné...
Il n'y a rien en stock.
Quelqu'un qui n'est pas content. Donc, puis les Indiens sont en guerre les uns contre les autres. Alors, il y a beaucoup de violence. C'est très violent. Donc, violence de la nature, violence des distances, violence des gens autour. Et c'est comme ça que... Ben, lui, la Jameraie va mourir d'épuisement à la Rivière-Rouge.
Oui.
Là, c'est autre chose. Il est malade.
Oui.
Les fils vont aller le chercher. Ils essaient de le ramener. Et il va mourir à la Rivière-Roseau, qui est dans le Dakota, à la frontière du Minnesota. Il va mourir. Il ne reviendra pas. Jean-Baptiste, lui, va partir du lac des Bois pour revenir à Michilimackinac, pour aller se chicaner avec les gens de Michilimackinac pour laisser passer la marchandise vers l'ouest, qui n'arrive pas. Donc, le père envoie son fils là-bas avec 19 coureurs de bois puis un missionnaire. On ne les reverra plus jamais. Ils vont se faire tuer par les Assiniboines. On ne sait pas. En fait, les Indiens n'ont jamais dit qu'ils l'avaient fait. Ils vont se faire tuer par les Indiens, bien sûr, par les Autochtones, à l'île qui aujourd'hui s'appelle encore l'île au massacre, sur le lac à la pluie. Et ils vont avoir la douleur de voir que les Autochtones vont avoir fait un rituel de démembrement, c'est-à-dire ils vont trouver les têtes sur les pics, puis ils vont trouver le père, le missionnaire, faussement mort, mais à genoux. Un genre de caricature générale qui est faite, c'est tragique. Alors là, Pierre de la Vérendrye vient de perdre son fils, son neveu, et beaucoup de violence, et il ne réussit pas dans ses entreprises. Mais il va persister dans ses entreprises. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir un des personnages les plus intéressants de cette saga, le jeune fils, le plus jeune.
Son quatrième.
Son quatrième. Alors, il y en a perdu un qui fait venir le quatrième. Il y a pas, à cette époque, il n'y avait pas de psychologue post-traumatique.
En effet.
Il aurait pu faire une dépression, là, lui. Il fait venir Louis-Joseph. Et Louis-Joseph va être le plus dynamique et le plus rusé du groupe. Et là, lui, il se réorganise. Il va dire, oui, on va y aller vers l'ouest. Ils vont partir du lac des Bois, vont retourner au poste Fort Maurepas, qui est le plus loin à ce moment-là, qui est à la Rivière-Rouge aujourd'hui, Saint-Boniface ou Winnipeg. Ils sont arrivés au lac Winnipeg, qu'ils appelaient.
Oui.
Ils appelaient le commandant de Gronquin, là, Winnipeg. Mm. Et de là, ben, ils hésitent, encore une fois. Est-ce qu'on va au nord? Est-ce qu'on va au sud? Ils vont faire les deux. Ils vont aller au nord, puis ils vont aller jusqu'à Le Pas. Aujourd'hui, ça s'appelle Le Pas, au nord Manitoba. Et là, tu peux tomber dans le bassin de la rivière Saskatchewan. Et la rivière Saskatchewan, si tu la suis, elle va t'amener jusqu'au pied des Rocheuses. Alors, parce qu'elle prend sa source dans les Rocheuses. Alors, mais ils ne vont pas y aller. Ils vont arrêter au port. Ils vont faire le plus lointain poste de traite, le Fort Pascoya. Je dis, tout appris par cœur, un matin. Fort Pascoya, c'est impressionnant. Fort Pascoya. Et ils vont aller vers le sud, ils vont rejoindre la rivière Capelle, qui est la dernière rivière canadienne à la frontière aujourd'hui américaine, américano-canadienne, la rivière Capelle, au pays des Assiniboines. Ils vont faire le fort de la Reine. C'est le plus loin où ira Pierre de la Vérendrye. Non, c'est vrai qu'il va aller jusqu'à chez les Pendants, mais c'est à partir du fort de la Reine. Mm-hmm. Le fort de la Reine regarde les États-Unis, le port regarde le nord. Mm-hmm. Pascoya regarde le nord. Bon, ils ont la cartographie du Manitoba à ce moment-là. Le Manitoba aujourd'hui, tel qu'on le connaît. Ils ont plein de décisions à prendre. Ils sont loin, là. Ils sont très loin. Ils sont isolés. La troupe des La Vérendrye, c'est à peu près 50 hommes. Et là, ils ont des décisions à prendre. Est-ce qu'on pousse plus loin? Ils vont pousser plus loin, vers au Fort La Reine, et là, ils vont s'en aller vers, croyez-le ou non, vers le Missouri. Ils vont retrouver le Missouri en traversant ce qui est aujourd'hui la frontière. Bon, aujourd'hui, on parle en termes de frontière, mais ils vont se retrouver au Dakota. Ils arrivent au Dakota. Là, ils connaissent les Cris, les Sauteux, les Assiniboines, les Sioux. Ils arrivent avec une population mystérieuse dont ils ont entendu parler, les Mandans. Ils arrivent chez les Mandans.
On surnomme les Indiens blancs.
La fameuse légende, tout le monde racontait. Mais ça, c'est, tu sais, les humains sont... On est tous de la même famille. Tu sais, la vieille histoire de la tribu égarée d'Israël. Il y a quelqu'un qui avait inventé ça, que parmi les Indiens, la tribu égarée d'Israël, les Juifs avaient une population cachée chez les populations nord-américaines. Mais ça datait aussi des fantasmes et des inventions imaginaires de Donnacona, qui n'arrêtait pas et qui avait été dire en France, à l'époque de Jacques Cartier, ça fait, ah, à l'intérieur, vous savez, il y a des royaumes, il y a des blancs, il y a des gens habillés comme vous, ils ont des culottes, ils ont des buissons blancs, puis ils ont de la barbe, puis tout ça. Il y a même, puis là, il avait raconté toutes sortes d'affaires. Il y avait des nains, des gens sans anus, des choses comme ça. Mais ces explorateurs-là, ils s'attendaient à trouver des choses comme ça aussi. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et les Mandans sont devenus, qui est une population Sioux, hein, les Mandans sont devenus l'archétype de la tribu égarée et des Blancs, etc., etc. Et c'était un peuple très important, les Mandans, qui se tenaient à la Grande Fourche, qui vivaient à la Grande Fourche du Missouri, de Grand Fork. Donc, tout près de la frontière canadienne, ils vivaient là. C'est un peuple sédentaire de Sioux, mais riche de bisons, riche d'agriculture, prospère de commerce, et qui vivait en face d'un autre peuple Sioux, les Idatsa, que les Français vont appeler les gros ventres. Et pourquoi je dis ça? C'est que ces populations vont devenir extrêmement importantes chez les Canadiens français et les coureurs de bois, parce que c'est là que les premiers coureurs de bois de l'ouest, du Far West, vont aller s'établir. Chez les Mandans. Il paraît que les Mandans étaient d'une beauté remarquable, les femmes étaient remarquables, puis les gars...
C'était pas étranger.
De l'expédition. Non. Jusqu'à des expéditions de Thompson, ils parlent des Mandans. Que les coureurs de bois, quand ils s'approchaient des Mandans, et des Mandanes surtout, on ne pouvait pas les arrêter. Ils partaient tout à courir. Trois jours avant d'arriver, il était déjà en marathon.
Ça donnait le dernier sursaut d'énergie.
Donc,
pour finir la route.
C'est les premiers qui vont voir les Mandanes, c'est les gens de la Vérendrye. Maintenant, c'est un dénommé Amiotte et un dénommé Lalonde, pour les familles Amiotte et les familles Lalonde. C'est des coureurs de bois dont on a retenu le nom, avec Pierre, qui les premiers vont arriver. Le père va arriver après, il arrivait toujours après. Pierre, et il va aller chez trois semaines chez les Mandans seulement. Il prend pas de notes, il dit rien, ça l'intéresse pas. Puis il revient au Fort La Reine et il va laisser ses fils aller. Et c'est à partir de là, chez les Mandans, que les fils de la Vérendrye vont faire leurs grandes expéditions mythiques. Parce que là, on est rendu dans le sérieux. Là, c'est les ligues majeures. Louis-Joseph va partir avec François vers l'ouest. À partir du Dakota, il s'en va vers l'ouest à l'inconnu. Il suit des rivières, il suit ci, c'est ça. Il appelle ça la rivière Roche-Jaune. C'est quand même incroyable. La rivière Roche-Jaune va s'appeler la rivière Roche-Jaune pendant 100 ans, avant de devenir Yellowstone. Tout était en français. Il va trouver une rivière, il va l'appeler, qu'il va trouver longue, qui est interminable, qui ne se passe rien, puis ça, il va l'appeler la rivière Plate. Il trouve toutes sortes de choses. Il nomme les Indiens. C'est d'une beauté, c'est un poème. Il arrive, et là, on a rencontré la tribu des beaux hommes. Et là, on a rencontré la tribu des petites cerises. C'est tous des noms qui ont été perdus. Et puis, ils voyagent. Et ils sont à cheval. Et à partir de chez les Mandanes, ils ont eu des chevaux, parce que les Mandanes et les Idatsa ont des chevaux, les fameux chevaux des Espagnols qui ont remonté. Alors, ils sont à cheval, ils se promènent dans les plaines, puis ils s'en vont, puis là, à un moment donné, ils sont au-delà de la rivière Roche-Jaune, puis Louis-Joseph dit, et on a vu les montagnes luisantes, les montagnes bleues, les rocheuses. Nous ne pourrons pas les franchir, on ne pourra pas y aller, parce que les guerres entre les nations indiennes sont trop intenses. Nos guides nous disent que si on fait un pas de plus, on est mort. Mais c'est la même chose qui est arrivée à Louis Joliette quand il descend le Mississippi.
Oui,
à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Non, je pense que tu devrais retourner.
»
c'est la même chose, on dit à Louis-Joseph. Alors, Louis-Joseph et François sont...
Au pied des Rocheuses.
Au pied des Rocheuses.
On est en janvier 1743.
C'est ça. Puis c'est un grand moment, c'est une grande expédition. Puis ils vont revenir, sains et saufs, chez les Mandans. Les Mandans vont offrir l'hospitalité aux Français, vont devenir les amis des Français... Et veulent que les Français restent. Quand même incroyable, ça, faire une offre comme ça en ces années-là. Et il y a des coureurs de bois qui décident de rester là, qui n'en sont jamais ressortis. Et ça, c'est l'origine des Franco-Métis de cette région, parce que je vais en parler un petit peu plus loin. Les Mandans auront un destin tragique, c'est un destin... Ils vont avoir un virus, ils vont être malades, et en 75 ans plus tard, ils sont morts. Ils vont disparaître de la surface de la Terre. Maintenant, Pierre fait une autre expédition à partir des Mandans. C'est Pierre qui est le plus à l'aise chez les Mandans. Lui, il fait une autre expédition de fou, et ça, on peut se manger les souliers, il n'en est rien resté. Tout le monde est de mauvaise humeur quand on regarde nos coureurs de bois et nos explorateurs francophones. On aurait dû leur donner une claque pour qu'ils écrivent.
Ou les faire suivre par quelqu'un.
Et les faire suivre vers des scribes.
Oui, des scribes. Comme on a vu avec la salle, il y a des gens qui accompagnent.
Qui accompagnent et qui font le mythe sur place.
Ouais.
Comme les Américains faisaient ça.
Oui.
Ils faisaient des tableaux, les Américains ils peignaient, ils écrivaient l'histoire, les mensonges étaient écrits à chaud. Mais Pierre dit rien. Mais on a fouillé, on a essayé de voir. Puis même dans ce qui est écrit, puis les obscures thèses et hypothèses, il se serait rendu au Colorado. Va donc savoir, le Colorado n'existe pas, le mot n'existe pas, il n'y a rien qui existe, il n'y a pas de carte. Mais il était parti pendant un an, dans ce vaste inconnu, et il revient. Ces gens-là cherchaient fortune, ils ne cherchaient pas...
À découvrir les Amérindiens,
ouais. ou à dire, après, j'ai été un grand héros, puis des choses comme ça. Ils cherchaient de l'argent, ils cherchaient fortune, ils cherchaient des fourrures, des alliances pour du commerce, puis etc., mais Pierre a fait un grand, grand voyage qui nous reste inconnu. C'est un gros trou dans l'histoire. Puis même le voyage au Wyoming est un demeure. On n'a pas grand-chose que Louis-Joseph aurait pu nous donner. Mais ils reviennent. Et de plus en plus, le père a des soucis avec la France. Mourra pas.
Oui, parce que là, son fils lui dit, j'ai été jusqu'au pied de ces montagnes. On n'a pas encore trouvé la mer de l'Ouest.
C'est ça.
Donc, tout ce beau monde-là revient dans la vallée du Saint-Laurent. On raconte ce qui s'est passé. Et ce que vous dites bien dans un texte, vous dites, il n'y a pas eu l'écho, le retentissement qu'il aurait pu s'attendre. Pourquoi?
Bien, d'abord, c'est un échec, l'affaire de la véranderie. C'est vu à l'époque comme un échec. Ouais. C'est pas un échec. On devrait le glorifier, on devrait en parler, on devrait... Mais pour eux, c'est un échec. Ils n'ont pas trouvé la mer de l'Ouest. Mais maintenant, pourquoi ils ne l'ont pas trouvé? Ce n'est pas leur faute. Regardez une carte aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait bien, on a des satellites. Mais à l'époque, à partir de Versailles, ils ne savaient pas que c'était large comme ça, l'Amérique du Nord, puis qu'il y avait des rocheuses entre le Pacifique, puis qu'il y avait des plaines, puis qu'il y avait des rocheuses, puis ensuite, c'était compliqué. Ils ne savaient pas ça, eux autres. Eux autres, trouve-moi la mer de l'Ouest. C'est une commande. Mais non, ça ne marche pas de même. Donc, c'est un échec pour Versailles. Maurepas va maudire la famille La Vérendrye, va faire mauvaise réputation aux Canadiens. D'ailleurs, il voulait le remplacer par un Français. Vous voyez le conflit à l'époque entre les Canadiens et les Français. Là. Maudit Canadien, puis on va mettre un vrai explorateur, un Français, dans le coup. Ça ne se fera pas, ça ne se fera jamais, mais c'était un peu des conflits de ce type. Et La Vérendrye lui-même transportait l'échec, c'est-à-dire il n'est pas riche. Il est endetté. On ne l'a pas dit, mais d'autres acteurs importants sont les Montréalais actionnaires de la compagnie de La Vérendrye. Louis Hamelin, M. Gamelin, les frères Nolan ont mis de l'argent. Là, les années passent, ça engouffre de l'argent, ça ne rapporte pas de profit. Fait qu'ils vont mettre La Vérendrye en échec.
Oui, c'est ça. En 1745, il va démissionner.
Oui.
Lorsqu'il revient, non seulement il apprend que sa femme est décédée pendant un de ses longs voyages, mais en plus, il apprend qu'on lui intente un procès, que c'est les actionnaires de cette compagnie. Et donc, ça finit pour lui un peu, à première vue, mais là, on va avancer dans notre histoire, mais il a l'impression que ça finit un peu en queue de poisson. Alors
pour lui, oui.
Il y a eu mais là, il y a comme un retournement de la situation. C'est que le fameux ministre secrétaire de la Marine... Qui a toujours pensé que, finalement, La Vérendrye était juste là n'était pas fiable, il était juste là pour faire du commerce, puis il n'était pas capable de trouver cette mer de l'Ouest. Eh bien, il est disgracié, il est écarté, et là, il y a un vent qui tourne, mais malheureusement...
Ben, c'est-à-dire qu'au moment où la Vérendrye va mourir, on va annoncer la nouvelle, là, il est mort.
Oui, mais le revirement, mais juste avant de mourir, ça allait bien.
Ah oui, le vire partait. Non, lui, il était reparti. Là, il y avait le mot repas est destitué. Le climat en France est meilleur. Et,
on reconnaît aussi la valeur de ce qu'il a fait.
Et son projet, à ce moment-là, est d'aller à l'EPA. Il a compris que c'était la Saskatchewan. C'était la pénétration par la rivière, le fleuve, la rivière Saskatchewan. C'est un projet d'envergure. Il veut se rendre aux Rocheuses. Il veut, et là, ben, il va se retrouver quoi, à Edmonton, puis à l'Ouest, puis il va rencontrer, puis il va aller finir par aller à Banff, j'imagine. Mais il ne le fera pas parce qu'il meurt, tout simplement. Il meurt d'apoplexie, il meurt à Montréal. Dans sa maison.
Alors
il n'est même pas dans sa maison, d'ailleurs.
Il était comme requinqué, mon repas n'était plus là, il avait reçu la Croix de Saint-Louis, la plus haute distinction. Donc, il était comme reconnu. Puis à ce moment-là...
Il était reconnu, puis ça, c'est bien pour lui, mais il ne voyait pas que la bataille était perdue par ailleurs. Ses fils l'ont plus vu. Parce que ses fils ont pris la relève de la routine du commerce des fourrures dans l'Ouest. Donc, ils veulent... le père est revenu, fatigué, là, mais les autres... Ils veulent rouler. Sauf qu'on est à la fin de la Nouvelle-France. Et là, la corruption est à son comble. Les droits de traite sont monopolisés par les aristocrates de Québec. On fait des misères aux fils de la Vérendrye. Les fils de la Vérendrye vont devoir se retirer lentement de la profession. De toute façon, la guerre de 7 ans s'annonce. Et là, Pierre, le fils... va s'engager dans la guerre de 7 ans, à la guerre. Je crois que François l'a fait aussi. Mais lorsque les Anglais, à la conquête, Louis-Joseph décide de retourner en France. Il s'en va en France. Et là, la tragédie dans notre film, si on faisait un grand film, si on était en train de suivre une série télévisée à la télévision, l'on verrait l'épisode terrible. Louis-Joseph s'en tourne en France. Il est sur le bateau qui s'appelle l'Auguste. Ils sont partis de Québec en retard. Ils ont eu des soucis dans le bas du fleuve. Et là, ils sont rendus au large de l'île du Cap-Breton, puis il y a une tempête maudite. On est en novembre 1761. Le bateau coule. Tout le monde meurt. Alors, le découvreur des Rocheuses, celui qui a fait ce grand périple, Louis-Joseph, qui se faisait appeler Louis-Joseph de la Vérendrye, meurt au large du Cap-Breton dans le naufrage de l'Auguste, qui est une grande période qui a été un choc dans l'histoire de la colonie. Et il y a eu 7 survivants seulement. 170 morts, 7 survivants. Et parmi les survivants, un personnage historique, ami de la Vérendrye, ami de Pierre de la Vérendrye, la Corne Saint-Luc. Le fameux gars qui a nagé, puis qui est arrivé à la grève, puis qui a séché ses vêtements, puis qui a essayé de survivre, puis tout ça. Puis là, il est parti. Imaginez-vous, en 1761, au début de l'hiver, il va partir, en décembre, il va partir d'où il est au Cap-Breton, à pied, jusqu'à Québec.
Oui.
C'est pas possible, là. C'est pas... possible.
C'est raconté dans Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé. Ça marquait tellement les gens à l'époque que c'est resté dans les mémoires. Ça a été raconté un siècle
tard. Et puis c'est beau parce que c'est les Micmacs. C'est les Micmacs qui le prennent puis qui disent on va te montrer, on va t'accompagner en raquette, on va t'accompagner jusqu'à dans le bas du fleuve. Et là, c'est toutes les grandes routes de contact entre l'Acadie et Québec. Par la voie des portages et des grands portages. Il faut l'imaginer avec les grands portages. Là, il s'en va en raquette, puis il arrive. Ces gens-là avaient un physique inexplicable, une résistance physique qu'on ne peut pas expliquer. Et ce Lacorne de Saint-Luc était de la Compagnie des Sioux. Lui, c'est un grand spécialiste de l'Illinois et du Wisconsin. Il avait fait la traite des fourrures au Wisconsin. Il connaissait personnellement l'Anglade, le Métis, qui, avec Pontiac, se battait contre les Anglais. tout se joint dans l'histoire. C'est d'une beauté absolue. Alors, dans le film qu'on regarderait, on verrait apparaître Pontiac avec Langlade, Luc de la Corne, Pierre de la Vérendrye, Louis-Joseph, et tout ça. Et ça deviendrait des personnages dans notre culture, dans notre mémoire, puis on en parlerait autant que District 31. Autant que...
Alors, vous avez parlé du destin tragique de Louis-Joseph de la Vérendrye, chevalier, hein? Il avait le titre même de chevalier. Qu'est-il arrivé des autres fils? Alors, on sait que le premier Jean-Baptiste est décédé tragiquement aussi en 1736, mais qu'est-il arrivé de François et de Pierre, le fils cadet?
Pierre va mourir à la guerre, mais dans les combats qu'ils vont mener durant la guerre de 7 ans, il va se battre un peu partout, Pierre, avec la corne. Ils vont se battre un peu partout, mais lui, il va mourir en Acadie. On sait qu'il est mort de fièvre. On n'a pas de détails sur sa mort, mais il est mort de fièvre, donc prématurément de la guerre. Le seul qui va devenir vieux, c'est quand même incroyable, le seul qui va devenir vieux, c'est François. Il va mourir à 79 ans, à Montréal. Et au moment où il meurt, plus personne ne se rappelle des La Vérendrye.
Vous avez, oui, absolument.
C'est pas croyable.
Vous avez raison de le dire. On a cette grosse... C'est la dernière grosse biographie qui a été écrite sur la famille La Vérendrye. Elle date de 1968. On est dû, hein,
oui,
pour une nouvelle, mais... Bon, il y a beaucoup d'informations. Et il raconte, ce monsieur Champagne, qu'on avait perdu la trace de La Vérendrye jusqu'à ce qu'un Français décide de regrouper des documents d'archives,
ouais,
un dénommé Pierre Margris,
ben oui,
publié ça en 6 volumes. Donc, des archives qu'il a trouvées dans le département de la marine qui concernait l'Amérique du Nord. Et donc, on a retrouvé là des documents sur les La Vérendrye. Et c'est donc 100 ans après presque la mort du dernier, que la famille est ressurgie dans les mémoires des Canadiens français, que cette famille est réapparue, qu'on s'est mis à se dire, mais quel destin incroyable, on doit beaucoup à tous ces gens-là.
Bien, il y avait un vice de forme, on était une colonie. Alors, toutes nos archives et nos papiers, notre mémoire écrite, ou en tout cas, se trouvaient en France. Et il s'est trouvé un blocage en France qui bloquait un peu nos chercheurs à nous. Et on voulait, en France, être le grand chef d'orchestre des archives coloniales de la Nouvelle-France. Ça nous a beaucoup nuit dans la construction de nos personnages historiques. Alors, vous avez raison de dire, à un moment donné, ça a débloqué, les historiens l'ont repris, on l'a revu. Mais on n'a jamais redonné la vraie mesure de cette incroyable saga des La Vérendrye, des Gautier de La Vérendrye dans l'Ouest canadien et dans l'Ouest américain aussi, qui sont à l'origine du déblocage des Canadiens français vers l'Ouest. C'est-à-dire qu'on oublie toujours, on est dans les années 1740, là, 35, 40, 1745, c'est la fin du régime français. Mais au moment de la conquête, il y a des centaines et des centaines d'hommes, de jeunes hommes, qui ont repris la piste des La Vérendrye, des coureurs de bois, et qui sont repartis au-delà du lac supérieur, et qui sont partis chez les Mandanes, qui sont partis chez les Idatsa, qui sont partis chez les Sioux, qui sont allés dans l'Ouest, et on ne les a jamais arrêtés, ils ont été partout. J'ai fait des recherches là, un peu plus tard, 1770, la présence des Canadiens français chez les Idatsa et les Mandanes, ceux qui sont restés et qui sont devenus des commerçants de fourrure et des explorateurs. Et on peut les suivre à la trace, les Ménards, les Charbonneau, la liste, les Pelletier, les Carbonneau. Et là, ça devient une passion, C'est La Vérendrye qui a ouvert tout ça. Parce que l'histoire n'est pas faite, l'histoire des 50 engagés.
Non, en effet.
Qu'est-ce qui leur est arrivé?
C'est vrai.
Est-ce qu'ils sont restés? Est-ce qu'ils sont venus? Ceux qui sont morts, etc. Alors, ce sont des chantiers ouverts. En fait, moi, je considère que La Vérendrye, c'est comme le reste. C'est un chantier ouvert pour les historiens du futur, pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui voudraient aujourd'hui aller en histoire et ouvrir des chantiers. Il faut revisiter tout ça. Il faut revisiter les archives. Il faut reconstituer l'histoire et refaire cette trame et voir des personnages nouveaux parce que La Vérendrye, c'est un personnage qui est nouveau parce qu'on a retenu le nom. On s'est même trompé, hein, officiellement, quand on a mis une plaque dans le Vieux-Montréal. Le chapitre se termine là-dessus en disant, ici est mort Pierre de la Vérendrye, découvreur des Rocheuses. Premièrement, il n'est pas mort là. C'est la maison de François, je pense. Et ce n'est pas lui qui a découvert les Rocheuses, c'est Louis-Joseph et François. Il n'a pas découvert les Rocheuses. Le plus loin qu'il a été, c'est au Dakota, chez les Mandans, ce qui est déjà beaucoup. Mais moi, je pense que quand j'étais petit à l'école, on m'a parlé de la Vérendrye en 10 minutes. Puis quand on regarde sur Internet, on voit un personnage, explorateur. Tu sais, c'est comme si tu regardes Lambert Kloss, comme si... avec son chien, là, tu sais, puis... Mais moi, Lambert Kloss, il voudrait une série télévisée lui aussi, là, puis le chien aussi.
Oui. Parce que vous me le disiez justement avant qu'on commence, il y a encore des trous, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas.
Beaucoup. Il y a beaucoup plus d'inconnus dans la Vérendrye que de connus. Les voyages de Pierre, les véritables circuits, le véritable itinéraire de Louis-Joseph, mais les relations des uns avec les autres, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis avec puis la bataille qu'ils ont menée contre les Anglais, la corruption de Bigot. Tu sais, c'est toute l'histoire. C'est la grande histoire puis qui rejoint la petite histoire, puis dans le détail de la chose. Et moi, ce que j'aime quand on regarde ces personnages-là, c'est de mesurer l'authentique envergure de leur exploit extrême, c'est-à-dire se retrouver à l'ouest du lac supérieur en ces années-là, parmi ces autochtones, dans ces distances, dans une forêt. Il faut connaître le lac à la pluie, il faut savoir que, tu sais, même aujourd'hui, là, tu sais, c'est aller à Winnipeg, là, en canot, et ça va être le reste de l'histoire de l'Amérique, va être comme ça, c'est les Lavérendries qui ont ouvert la voie. Nous n'avons pas le réflexe culturel, simplement, de faire un mythe de ces gens, quitte à mentir tout au long.
En tout cas, Serge Bouchard, on peut compter sur vous pour nous rappeler cette mémoire. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Vous souhaitez en connaître davantage sur ces figures marquantes? Inscrivez-vous au cours HIS 4000 de l'Université TELUC, un cours consacré à la Nouvelle-France.